Aura réponse à la question.
FM 93.
Dans Bouchard en parle.
Nos manchettes du jour.
Oui, toujours de retour avec les superbes manchettes. Alex, tiens, en tant que nouveau porte-parole désigné des manchettes, je te laisse commencer ta manchette à toi.
250 places agaces.
C'était rien.
C'est la faute au facteur.
C'est la faute au facteur.
C'est la faute au facteur.
Moi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui a fait le facteur parce que...
Il y a le dos large.
Oui, souvent, mais ça m'intéresse. Moi, je vais vous parler du summum de la douleur.
Le summum de la douleur.
Le summum de la douleur.
Commence donc.
Ouais, tu veux que je commence? Ouais. Mon épopée commence avant de partir en chalet. C'est avant d'aller me coucher vendredi soir. M'en va. D'abord, je me relève d'une sieste. J'ai eu une drôle de journée vendredi. Là, je me suis levé d'une sieste, je suis allé comme manger, puis je suis allé me recoucher après. Avant d'aller me coucher, donc en me le relevant de ma sieste, je me lève. Là, je suis encore à moitié endormi. J'arrive pour me repencher, pour ramasser quelque chose. Puis là, l'orteil, la petite orteil, carré dans le coin de la base de lit. Carré dans le coin de la base de lit. À peu près de la même vigueur que si j'allais donner un coup de pied dans un ballon au soccer. L'orteil, là, actuellement, là, est encore mauve. Il y a une ligne mauve dedans. Tu vois où est-ce que le coin de la base de lit est arrivé. Là.
Y a-tu une coupe de casse tap?
Oui, il y en a eu quelques-uns par la suite. Puis c'est drôle, hein, parce que tout de suite, quand j'ai rentré dedans, ça a fait comme... Puis là, après ça, c'est comme si j'avais absolument plus rien senti.
Hein?
Mais dans les minutes qui ont suivi, disons que à chaque fois que je marchais sur mon pied, là, je sentais l'orteil qui suivait le reste, mais l'orteil, elle la suivait pas. Elle était droite comme une barre, puis elle bougeait plus. Au début, je me suis dit, ah, c'est pas si pire que ça, mais en même temps, je comprenais pas que l'orteil, elle soit pas plus impactée ça, parce que je t'avais rentré là, carré dans le coin du lit. Puis là, dans les minutes qui ont suivi... Là, elle a commencé à devenir rouge. Puis là, à un moment donné, il y a une barre mauve qu'il y a dedans. Là, l'orteil est tout comme rouge foncé, là, avec une ligne mauve qui délimite clairement le coin de la petite orteil qui est là. En tant que summum de la douleur, là, je vous dirais que sincèrement...
C'était dur à battre.
C'est assez dur à battre. Là. On parle souvent du classique, là, l'orteil sur le coin du lit. Là. Ça m'était arrivé quelquefois de me repenter là. Mais sincèrement, cette fois-là, je te dirais qu'il n'y avait pas grand-chose qui était capable de battre ça. J'ai travaillé fort, mais je me suis pas rappelé la dernière fois que j'avais eu autant de douleur de l'intérieur. Fait que c'est ça, le summum de la douleur.
On est désolé pour toi, mais on est vraiment surpris que tu sois parmi nous aujourd'hui.
Ben oui, François, il s'est absenté l'autre fois pour un petit mal de dos.
C'est vrai, hein, François, ben ouais, dans le fond, t'as pas été bien mieux.
Moi, je suis
une
mauviette.
Oui.
Un faible.
Et voilà. Une douleur d'orteil ou un mal de dos, là, sincèrement.
Pas tout à fait la même chose, je veux dire.
Mais ça se ressemble. Alex, vas-y donc avec tes 250 personnes agaces. Hein.
On a appris aujourd'hui, ben en fait, ça fait quelques jours déjà qu'on l'a appris, mais à partir d'aujourd'hui, c'est possible maintenant d'être 250 personnes dans des endroits fermés.
Oui,
soit les salles de spectacle, les cinémas, etc.
Fait que ton guichet fermé à 50 personnes, il va être plus dur, là.
Ben non, c'est ça l'affaire. C'est que malheureusement, dans certains endroits, dont où est-ce que je produis des spectacles d'humour, il peut pas rentrer plus que 60 personnes avec la fameuse distanciation sociale de 1,5 mètre. Fait que c'est là que c'est un peu agace. C'est-à-dire que on permet 250 personnes, mais en réalité, dans la majorité des salles de spectacle, sauf ceux qui sont aux alentours de 7, 8, 900, 1000 en montant, on peut pas être ben plus en raison de la distanciation sociale.
C'est quoi le pourcentage des salles qui sont 250 ou 500 et moins?
Il y en a plus, je pourrais pas te dire le pourcentage, mais il y en a assurément plus de 500 et moins qu'il y en a de 500 et plus. Parce que les 500 et plus, c'est les diffuseurs.
C'est les gros.
Comme les salles Albert Rousseau, Capitole et compagnie. Fait que honnêtement, puis je suis pas sûr que ces salles-là vont nécessairement rouvrir leurs portes parce que 250 personnes, faut que tu vendes les billets chers pour que ça soit rentable.
Puis c'est ça, eux autres, tu passais 250.
Mais non, c'est ça, exact. Tu sais, je sais que Théâtre Le Petit Champlain a ouvert, ils font des projets parallèles là, avec Faneuf, des spectacles d'humour. S'il y a 50 personnes maximum, je pense pas que le Théâtre Le Petit Champlain va pouvoir avoir plus de personnes, même si leur capacité maximale, c'est 250 personnes environ, 235 places, précisément au Théâtre Le Petit Champlain. Il va y avoir maximum peut-être 60 personnes, 70 personnes, fait qu'on va pouvoir vendre une vingtaine de billets de plus.
Ouais.
Mais ce que je trouve plate, c'est que ça me surprendrait vraiment de voir une salle Albert Rousseau ouvrir, justement. Pourquoi ne pas y aller en fonction, en pourcentage? Par exemple, 25 % de la place, ben tu peux ouvrir ça aux personnes. Comme par exemple, le centre Vidéotron, 25 % c'est 5000 personnes qui peuvent être là. Mettons que la salle est de 20 000 personnes. Là, je fais un chiffron, là, c'est un peu moins que ça au centre Vidéotron. Mais ça fait 5 000 personnes qui peuvent se réunir pour regarder un spectacle, que ce soit d'humour ou de chansons.
Ou ben tu commences par dire il faut que le 2 mètres soit respecté. Il faut que tu gardes, arrangez-vous comme vous voulez, tant que partout en dedans, il y ait tout le temps un 2 mètres. Fait que là, tu te ramasses peut-être au centre Vidéotron, mais ben, tu condamnes, là, à ce moment-là, t'es peut-être plus proche du tiers, là. Tu condamnes genre un banc sur. Tu fais un banc, tu en laisses deux de vide, un autre banc. Je sais pas, tu peux essayer de trouver des formules.
Parce qu'eux, 250 personnes, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, le centre Vidéotron, avec ça? Absolument rien.
Il n'y a rien à faire.
Mm-hmm. Déjà que c'est un éléphant blanc, qu'on se le dise, là. S'il y avait au moins 5000 personnes qui pouvaient avoir. Qui pouvaient être assis pour regarder un spectacle, ce serait déjà mieux, je pense.
Ouais, surtout que. La raison fort probablement pour laquelle on reste à 250 personnes, c'est parce qu'on a commencé avec 250. T'sais, la première restriction qu'on avait mise, c'est de dire « Ah, ben là, c'est un maximum de 250 personnes. » Fait que là, on remarquez, là, c'est pas une science bébé compliquée, on fait exactement l'inverse de la courbe.
En fait, on est passé de 500 personnes à 100 personnes à zéro.
Puis là, ben, tu remontes à...
Là, on 250. Est de 50 à 250, puis j'imagine que d'ici septembre, s'il n'y a pas de deuxième vague, ça va peut-être augmenter à 500 personnes.
Parce que, tu sais, toi, François, qui suis beaucoup les histoires de baseball, là, ça a été compliqué, eux autres, parce que là, les matchs extérieurs, là, tu sais, c'était pas simple, là, le maximum de spectateurs qu'ils pouvaient avoir dans les estrades, parce que je vois certains endroits, là, où ils jouent devant genre de 500-600 personnes, mais eux, c'est à l'extérieur, ils sont corrects, mais même à un certain moment donné, ils pensaient que c'était encore 250, là.
Bon, en fait, ça a été compliqué parce que, évidemment, il y a une ligue senior, entre autres, là, qui a recommencé puis qui a arrêté. Mmh. Ça n'a pas été très, très long. Là. Ils ont arrêté, je pense, une journée ou deux journées. Je me souviens pas. Mais c'est parce qu'il y a des stades qui sont plus gros que d'autres.
C'est ça.
Alors, les stades plus gros, je disais, bon, mais pour respecter la distanciation, exemple, à Thetford-Mine, je pense que c'est un stade qui contient 5000 personnes.
Ouais.
Bon, je disais, bon, ben, 500, 600, 700, on est correct.
Mais oui.
Mais non, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Puis t'avais d'autres stades qui, mettons, ben, eux, ça contient à peu près, je sais pas, moi, 500 personnes. Mmh. Ben là, eux autres, là, déjà à 50, là, c'était limite un peu. Alors là, ils savaient plus sur quel pied danser, qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui était pas permis. Mais
surtout qu'un stade, c'est intérieur ou c'est extérieur? Parce que t'as des stades, c'est dur à dire.
Ben, en fait, la majorité des stades, c'est extérieur. Bon, prenons l'exemple de celui qu'on connaît le mieux, stade le Stade Canac. Canac, là.
Ouais.
C'est un stade extérieur, mais
oui.
C'est sûr qu'il est couvert en partie.
C'est ça.
Mais c'est un stade extérieur.
Okay.
T'es dehors.
Oui.
Mais en fait, ça a été tellement compliqué à un moment donné que les équipes de baseball junior, dont les Diamants de Québec, qui jouent au Stade Canac, eux, ils ont commencé à jouer. Puis là, un moment donné, là, c'était tellement plus clair qu'ils ont dit « Bon, ben parfait, il n'y a pas de spectateurs qui rentrent. »
Ben, c'est ça.
Alors, ils ont décidé de trancher comme ça parce que c'était trop compliqué là, à déterminer quel était le bon nombre qu'ils pouvaient accueillir tout en respectant les règles de la santé publique.
Mais comme là, le bon nombre serait 250 dans
ouais,
leur
là,
cas.
Ils peuvent, là. C'est
mais
ça.
Mais pourquoi pas y aller avec 25 % de la capacité du Stade Canac qui est 5000 personnes, à peu près?
En fait, c'est à peu près 4500. Alors, 25 %, tu es à peu près
1500,
à 1000.
Mettons,
ouais, à peu près. Entre 1000 et 1500. D'ailleurs, c'était le plan des capitales, ça. Les capitales, s'ils avaient joué, eux autres, ils se disaient, ben à 25 %, on a à peu près un petit peu plus que 1000 personnes dans le stade.
Moyen de faire un peu d'argent,
ben,
sans,
c'est
ça.
Ben, c'est ça. Le problème, c'était ça, parce qu'ils veulent au moins couvrir leurs dépenses. Puis ils se disaient, ben, mettons une famille de 4, eux autres, on peut les asseoir ensemble.
C'est ça.
Ils restent ensemble.
Exact.
Puis l'autre famille de 4, ben, t'es assois plus loin. Le couple, t'es assois ailleurs. Alors eux, ils regardaient la configuration de leur stade, puis ils se disaient, ben, à 1000 personnes ou à peu près, ça fonctionnerait.
Ben oui.
Mais là, ça n'a pas fonctionné parce que leur ligue a tombé à l'eau. Mais eux, c'était leur plan à la
okay.
base.
Vous, M. Terrien, comment ça, sa faute aux facteurs, là?
Ben, on est le 3 août aujourd'hui.
Oui.
Donc, nous sommes à 3 mois, jour pour jour, en principe, de l'élection présidentielle américaine.
Ah, ben, tabarnak.
Qui est prévue pour le 3 novembre, mais le président sortant, M. Trump, veut reporter cette élection-là parce qu'il dit, en temps de pandémie, c'est pas une bonne idée. Les gens disent, bon, faisons-la par la poste. Mais lui, il dit non, 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 on ne fait pas ça par la poste. Là. C'est trop dangereux qu'il y ait des fraudes gigantesques. Puis en plus, il va y avoir des retards. Alors, une élection, il faut savoir les résultats le soir même. On peut ben pas oui. attendre. Bah, 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 bah. Alors donc, c'est la faute aux facteurs, mais peut-être pas tant que ça. Ah. Parce qu'il semble que Donald Trump fait tout pour affaiblir le service postal américain.
Ah, c'est le fun.
En juin, il a nommé un nouveau patron à la US Postal, qui est l'équivalent américain de Poste Canada. Oui. Il s'appelle Louis DeJoy. C'est un généreux donateur de sa campagne à lui, M. Trump, et celle des Républicains. Et depuis qu'il est là, il est rentré en poste le 16 juin, moins d'un mois plus tard, le 13 juillet, et il édictait une règle, tout temps supplémentaire est interdit. 0 minute de temps supplémentaire. Ainsi, alors le facteur, lui, qui s'en va avec sa grosse poche d'enveloppe, là, quand l'heure du quart de la fin du quart de son travail sonne, s'il reste 25, 50, 100 enveloppes dans
son
sac,
ça reste là.
Il reprend son sac, il l'amène au centre de tri, puis il le met là. On recommencera demain à l'heure qui est prévue. Et ça, c'est la première fois en 275 ans d'existence du service postal américain que cette mesure est appliquée avec autant de zèle. Mmh. On a décidé, là, c'est pas une minute de plus. Il y a déjà eu des mesures là, d'économie faisant, ben là, on va slacker un petit peu sur le temps supplémentaire. Mais là, c'est pas diminué. C'est zéro temps supplémentaire. Ce qui fait dire à plusieurs que Trump vise à réduire l'efficacité du service pour justifier l'éventuel report de l'élection. Parce que là, évidemment, les retards s'accumulent, c'est bien clair. Et Donald Trump a justement évoqué le danger de tel retard pour lui, un vote par la poste, ça marche pas en raison de la fraude et des problèmes de report. Alors lui, il dit ça, sauf qu'à travers les années, les Américains ont exprimé plus de 250 millions de votes par la poste.
Et quand même.
Il y a des États où la majorité des votes se fait par la poste, puis les cas de fraude, ça représente un infime pourcentage, puis des retards, il n'y en a pas eu tant que ça. Puis là, en raison de la pandémie, il y a 46 des 50 États qui ont déjà pris d'importantes mesures pour favoriser un vote par voie postale, parce qu'ils se disent, c'est comme ça qu'on va réussir à venir à bout, là. On ne fera pas voter le monde, on n'enverrait pas le monde comme des moutons partout au bureau de votation en pleine pandémie de la COVID. Puis en plus de ça, il est prouvé que le vote postal augmente le taux de participation, étant donné que celui-ci est relativement faible aux États-Unis, puis je dirais pas mal faible. Plusieurs observateurs estiment qu'il s'agit d'une façon plus démocratique de procéder. Aux États-Unis, le taux de participation moyen à une élection dépasse à présidentielle, une élection générale, ça dépasse à peine les 50 %.
Bon, 1900... Pas mal comme ici, quelque part.
Non, c'est plus ici. Vous allez voir, j'ai quelques chiffres. En 1996 et 2000, c'était 49 et 51 % respectivement.
49, là, quand t'es en bas du 50,
ouais,
c'est pas beaucoup. Là,
ça fait dur. Depuis ce temps, le taux a augmenté de 5 % environ, mais il n'a jamais atteint les 60 % depuis l'élection de 68. Depuis plus de 50 ans qu'il n'y a jamais eu un taux de participation de 60 % en montant aux élections présidentielles américaines. Au Canada, le taux de participation des élections générales dépasse régulièrement les 65 %. Puis ça arrive souvent qu'on attrape le 70. Et au Québec, il les dépasse fréquemment, les 70 %. Alors, c'est clair que les Américains ont du chemin à faire pour que leur démocratie fonctionne comme du monde. La poste est une bonne idée, mais Trump veut pas. Pourquoi? Parce que de toute évidence, il veut pas que le taux de participation soit trop élevé.
Mais c'est que tu te rends compte aussi que ceux qui votent par la poste, ils votent davantage pour les démocrates aussi quand ils regardent les chiffres.
Probablement que c'est ça aussi. Ouais, là.
J'entendais alors, lui, Raphaël Jacob
ouais,
là,
alors,
qui en
parlait. Alors lui, il voit ça puis il se dit, ben là, je suis mieux de... Puis une des façons qu'il a pris, de toute évidence, c'est de mettre quelqu'un à la tête du service postal américain qui va s'organiser pour que le système ne fonctionne pas et qui soit justifié de dire on peut pas faire confiance au service postal pour un vote démocratique sûr et rapide.
Mais tu sais, sincèrement, les chances que ça arrive, là, c'est Trump qui fait du Trump, là, mais les chances que ça arrive que le jour du vote soit déplacé, sincèrement, les chances sont assez faibles. C'est jamais arrivé dans l'histoire.
Peu importe, il y a eu des guerres, il y a eu plein de choses. Même
jamais
pendant la pandémie pendant la pandémie de grippe espagnole, c'était en 1920 l'élection, puis la pandémie était pas mal finie. Alors, c'était moins pire un peu.
Mais crise économique, guerre mondiale, ça a tout le temps été.
C'est ça. La date est fixée, c'est cette date-là où on vote. Et puis l'affaire aussi là-dedans, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à gagner parce que la Constitution américaine prévoit que si au moment où le mandat du président finit, il n'y en a pas un autre. Ben c'est le représentant du parti au majoritaire à la Chambre des représentants qui prend le Alors, lui, il n'a rien à gagner. Il ne restera pas là, là. Mm. De toute évidence, son mandat se termine le 20 janvier 2021, élection ou pas.
Je trouvais ça ironique de voir, François, dans les pourcentages de vote, de réaliser que, tu sais, aux États-Unis, là, ils ont des campagnes électorales là, qui durent des années. Là. Aussitôt que c'est fini, ça, c'est, tu recommences après. Là.
C'est une vis sans fin.
Puis là, tu regardes les taux de votation, puis tu te dis, Colin, c'est plus bas qu'ici. Alors que nous autres, là, on fait une campagne d'un mois et demi, puis on est écœurés à la fin d'en entendre parler.
En fait, il y a peut-être un peu ça, c'est que le système de votation est compliqué aux États-Unis. C'est compliqué se faire inscrire sur la liste électorale, beaucoup plus qu'ici. Alors, ça explique, ceci explique cela. C'est pour ça que le taux de participation est généralement assez bas. Depuis la fameuse élection contestée de 2000, ça, c'est la fameuse élection où
Bush,
Al Gore,
ouais,
c'est
Al
ça,
Gore,
là, Al Gore et George W. Bush,
ouais.
Où ça avait, je pense, c'est vers 3 heures du matin qu'on a su qui gagnait. Puis, à un moment donné, ben, Gore avait concédé la victoire. Il a rappelé Bush, il m'a dit, ben, finalement, je concède plus. Et là, c'était hyper compliqué.
Oui.
Ça s'est rendu en cours, cette affaire-là. C'était vraiment, c'était un roman savon. Depuis ce temps-là, le taux de participation a monté.
Un petit peu.
Mais pas assez.
OK. Hey, François, tu sais qu'on a fait une omission ou un oubli fort reprochable aujourd'hui.
Oui, ben allons-y.
Ben, parce que tu as dit qu'on était le 3 août, quelques mois avant les élections. Mais quand tu regardes ça, le 3 août, c'est une journée fort importante. On est à peu près les seuls à ne pas avoir congé calvaire aujourd'hui.
Oui, c'est le Civic Day au Canada anglais.
C'est la fête de la Colombie-Britannique, la fête de la fondation de la Nouvelle-Écosse, le jour de la Saskatchewan, le jour du Nouveau-Brunswick. La journée Terry Fox au Manitoba, puis il reste le premier lundi d'août. Ça, c'est une belle fête, ça. La fête du premier lundi d'août.
C'est le Civic Day. Ils appellent ça comme ça au Canada anglais. Tout le monde a congé, sauf nous autres.
Ça, c'est partout ailleurs.
Puis, y a-t-il une raison à ça?
Je connais pas tellement l'histoire de ça. Je sais pas comment c'est devenu une journée fériée au Canada anglais, mais nous autres, on l'a su.
On est les seuls.
En fait, ce que je crois comprendre, c'est que nous autres, la journée fériée qu'on a de plus qu'eux autres, c'est la Saint-Jean.
Ouais.
Okay, ouais.
Parce qu'eux autres, d'habitude, la journée qui fête la fondation de leur province, c'est pas une fête nationale. Alors, pour corriger ça, il y a le Civic Day qui est le premier lundi du mois d'août. Eux autres, ils ont congé au Canada anglais.
Bon, fait que nous autres, pendant ce temps-là, on va travailler.
On a un bon congé.
Profitez-en. En plus, la journée, la fin des vacances de la construction. On l'aurait pris, nous autres, ce lundi-là. Hein?
Bon, on va prendre 3 minutes 43 de congé.
Ah, une petite pause? OK, faisons ça.
Tous les jeudis de l'été, vers 15h30, dans Bouchard en parle, tout le monde dehors pour la chronique plein air en compagnie de l'aventurier Alexis Nantel. Présenté par Sport Expert et Atmosphère. Il vient nous donner plus...